Ok, donc vous m'entendez, bonjour à tous. Donc, nous allons terminer cette série de cours sur les trous noirs binaires, par les diagnostics observationnels et perspectives. Donc il va s'agir surtout, comme vous le voyez là, d'ondes gravitationnelles. Donc les ondes gravitationnelles, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ondes qui ont été prédites déjà depuis Einstein, ça fait déjà 100 ans, puisque en 2015, on a fêté le centenaire de la découverte de la relativité générale. Donc vous savez que dans cette théorie de relativité générale, les forces de gravité ne sont pas vraiment des forces comme les autres, mais sont une déformation de l'espace. On représente toujours cette image comme, disons, comme un tapis où l'on voit chaque masse qui crée son trou, si on pue le potentiel, si vous voulez, à deux dimensions, pour simplifier, parce qu'on ne peut pas le dessiner à trois dimensions. Mais disons, cette image donne bien un aspect de la réalité. Vous avez des géodésiques où les photons sont déviés par les masses. Et donc, ceci, c'est une vue statique, mais évidemment, cette information, lorsque les masses vont bouger, cette information va se propager pour informer une masse qui est ici qu'il y a un mouvement de la masse. Donc, cette information qui se déplace avec la vitesse de la lumière, ce sont les ondes gravitationnelles. Donc, ce n'est pas une onde comme une qui se propage dans l'espace, c'est plutôt une déformation de l'espace qui se propage et qui va amener... Alors, il faut vraiment qu'il y ait une masse qui bouge avec une très forte asymétrie. Vous voyez une petite idée de la déformation de l'espace qui se propage dans cette petite animation en bas. Donc, ça a été prédit depuis 100 ans. Et on aimerait savoir si on peut les détecter directement. Ce n'est pas encore tout à fait fait, mais on va voir que c'est en bonne voie. Alors, comment sont ces ondes? Un petit peu par analogie avec les ondes électromagnétiques, vous avez deux polarisations, un champ électrique horizontal, vertical, si vous voulez, si vous les mettez dans les polarisations linéaires, ou bien alors qui tournent d'un côté ou de l'autre en polarisation circulaire. Ici, on a la source de ces ondes gravitationnelles, c'est un quadrupôle. Donc on a des polarisations qui sont un petit peu différentes, non pas à 90 degrés, mais à 45 degrés. Vous avez cette forme-là, c'est-à-dire d'une déformation qui vous est montrée dans cette animation d'un petit cercle de masse test qui serait évidemment très exagéré, étiré dans un sens et comprimé dans l'autre. Vous avez cette déformation dans les deux sens. Ici, vous avez la propagation de l'onde qui est perpendiculaire au tableau. Hein. Donc, ces plans sont perpendiculaires à la direction de propagation. Évidemment, cette onde X+, sont les mêmes ondes, mais inclinées à 45. Vous pouvez décomposer les ondes dans ces deux-là. Alors, ici, on a fait l'analogie, hein, la direction de propagation d'un champ électromagnétique. Vous avez les ondes horizontales et verticales. Et ici, en général, on symbolise cette déformation, étirement et compression de quadrupôle par ce petit schéma. Vous voyez, c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure, le petit l'ellipse qui était étendue et compressée dans l'autre sens. Donc, vous avez un petit peu ce symbole pour symboliser le quadrupôle. En fait, ça peut être aussi un quadrupôle comme ceci, pour donner une petite image. Pourquoi fait-on ce petit symbole? Donc, une polarisation plus perpendiculaire et parallèle, et puis à 45 degrés. Ce quadrupôle vient du fait que vous n'avez aucun dipôle, hein, vous n'avez pas de masse négative. Alors ici, vous avez des petites animations qui vous montrent comment se propage cette onde de polarisation plus. Vous voyez que dans cette direction, on voit à chaque plan la déformation de l'espace étiré et comprimé, et puis étiré et comprimé, qui se propage comme une petite chenille, si vous voulez. Alors, pour comparer l'électromagnétisme qui se propage dans l'espace comme un champ électrique à la vitesse C, ici, c'est vraiment un petit peu différent. Hein. Ce n'est pas un vecteur, un champ électrique qui se propage, mais c'est plutôt la déformation de l'espace lui-même. Hein, il n'y a pas besoin de champ qui se propage. Alors, les fréquences sont très différentes. Évidemment, lorsque vous avez des ondes électromagnétiques, par exemple radio, que vous détectez sur Terre, décamétrique, 10 puissance 7 Hz, jusqu'au rayon gamma de très haute énergie, 10 puissance 20 Hz, c'est un peu la gamme qui est détectée sur Terre. Pour les ondes gravitationnelles, ce sera la fréquence à laquelle varient ces masses. Par exemple, si vous avez deux masses binaires d'objets compacts comme trou noir ou étoile à neutrons qui tournent, ce sera deux fois la fréquence de rotation, par exemple. Donc ce seront des fréquences beaucoup plus basses qui vont jusqu'au nanohertz. Donc les longueurs d'onde très très grandes. Les longueurs d'onde ici, ce sera de l'ordre des années-lumière, et ici, ce sera de l'ordre de 30 km par exemple. Donc c'est des longueurs d'onde beaucoup plus grandes et des fréquences beaucoup plus basses. Alors ces ondes qui ont été prédites, on les a découvertes indirectement, pas encore directement, mais indirectement. Indirectement, c'était la découverte de Hulse et Taylor, qui ont mesuré le pulsar binaire, un pulsar binaire, dans les années 75, et qui, pour cette découverte qui finalement confirmait la prédiction des ondes gravitationnelles, ils ont eu le prix Nobel en 93. Donc vous voyez que c'est un pulsar qu'ils ont observé sur le télescope d'Arecibo, c'est un télescope radio dont le diamètre fait 300 mètres, qui est une cavité naturelle de l'île de Porto Rico. Ici, vous avez en fonction du temps, alors évidemment, on a extrapolé jusqu'à aujourd'hui, et continue à être observé, ce pulsar, pendant 30 ans. Et vous voyez là la perte de période. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez un pulsar binaire. Une des étoiles est une étoile à neutrons qui tourne et nous envoie des pulses, avec une période de 59 millisecondes. Et puis, on sait qu'il est en binaire avec une étoile qui est invisible. Et comme on connaît la masse, vu qu'on a les périodes, une étude très précise de la période, on connaît la masse, c'est aussi 1,4 masse solaire, donc quelque chose qui est invisible, compact, et de cette masse-là, ça ne peut être qu'une étoile à neutrons. Donc on pense que c'est aussi une étoile à neutrons, peut-être un pulsar, mais à ce moment-là, le pulse n'est pas dans notre direction, donc on ne le voit pas. Donc deux étoiles à neutrons qui tournent, et ce qu'on voit, évidemment, c'est une modulation de cette période. En plus, le temps que met la lumière lorsque le pulsar est un petit peu plus derrière, est un peu en recul. Donc on le voit sur la modulation de ce pulse avec une très grande précision puisqu'on peut le mesurer à la microseconde près. Alors la distance entre les deux, c'est de l'ordre de la taille du Soleil, en gros 4 secondes lumière. Donc il faut mesurer ceci de façon très rapide et très précise. Et ça a été fait. Donc vous voyez qu'en 30 ans, elle a perdu 40 secondes de sa période. C'est-à-dire qu'elle se rapproche, elle tourne plus vite et la période rétrécit. Actuellement, elle est 8 heures, enfin environ 7 heures, 3 quarts ou 8 heures. Donc ça va encore durer très longtemps, hein, puisqu'elle a perdu en 30 ans que 40 secondes sur 8 heures. Donc on a encore de la marge, on n'aura pas la fusion très rapide, mais ça a permis, vous voyez un petit peu la courbe prédite, c'est-à-dire qu'en émettant ces ondes gravitationnelles, la paire perd de l'énergie, et donc la période est plus courte, donc elle s'accélère, et donc vous voyez que c'est exactement ce qu'on attend par la relativité générale. Alors, vous voyez un petit peu la précision à laquelle sont faites ces mesures. Vous avez un tableau, je ne vais pas le détailler, mais par exemple, la période ici, c'est en jours, donc 0,3 jours, c'est les fameux 8 heures que je donnais, mais voyez un peu les chiffres, c'est 13 chiffres significatifs. Donc, vous avez on dit toujours que l'astronomie, c'est toujours avec les mains, avec des ordres de grandeur, mais là, c'est vraiment une astronomie de précision, 13 chiffres significatifs ici. L'excentricité de l'orbite est assez excentrique, il y a une certaine inclinaison, l'avance du périas, la dilatation du temps et tous les effets relativistes qui ont été vérifiés. Donc ça, c'est un papier relativement récent, mais déjà à l'époque de Hulse et Taylor, il y avait une grande précision. Et la formule prédite par la relativité générale est ici. Donc tout à fait remarquable de précision. Alors justement, les pulsars, on pense que c'est lorsqu'on aura un certain nombre, de mesurer le temps à laquelle nous arrivent les pulses des pulsars. Donc le temps d'arrivée, on appelle ça TOA, Time of Arrival of Pulsar. Là. C'est une science qui va nous donner beaucoup de renseignements sur les ondes gravitationnelles à très basse fréquence, très grande longueur d'onde. On a plusieurs de ces pulsars. On a des pulsars binaires qui sont les plus intéressants. Il y en a à peu près 100 pulsars binaires. Alors binaire, un pulsar, mais avec en général une naine blanche, donc deux objets compacts. Lorsqu'il y a deux étoiles à neutrons, c'est plus rare, il y en a peut-être une dizaine actuellement. Et lorsque les deux émettent un rayonnement de pulsar vers nous, c'est assez rare, il y en a un ou deux, mais pas plus. Mais déjà, un pulsar binaire avec une seule élément de la paire, un pulsar, est très précieux pour faire des calculs. Donc voyez un petit peu comment ça se passe. On a une étoile à neutrons qui va émettre un pulse. On ne sait pas a priori quelle est la période, mais on va essayer de replier. Évidemment, si la période est très courte, des millisecondes, un pulse à lui tout seul n'est pas suffisant. Il faut le replier avec la bonne fréquence. Donc tout ceci est un travail. Vous voyez que les pulses ici d'un pulsar donné sont parfois complexes. On a parfois un double pulsar. Ça revient au fait que le pulse est peut-être un cône et il y a plusieurs éléments, une structure dans le pulse. Donc je ne détaille pas tout cela. Mais je vais quand même faire un point sur les diverses sortes de pulsars, parce que ça va nous être utile. Donc un pulsar, comme vous le savez, c'est une étoile à neutrons, donc très compacte. Une étoile à neutrons, c'est le résultat de l'explosion d'une supernovae, donc le résidu de la fin de vie d'une étoile massive, qui tourne autour d'un axe qui n'est pas exactement égal, qui a un certain angle, avec l'axe magnétique de l'étoile, d'où le pulse là, qui est émis dans la direction du champ du pôle nord magnétique. Donc, étant donné que c'est une étoile dans un état très condensé, alors qu'est-ce qui se passe en fait dans cette étoile à neutrons? Il s'agit d'une mer de neutrons, si vous voulez, où les protons se sont combinés aux électrons, il n'y a plus que des neutrons, et la force qui compense la gravité, qui ne forme pas un trou noir, si vous voulez, c'est le principe de Pauli, c'est-à-dire que les fermions ne peuvent pas occuper plusieurs états, donc ça fait une pression de Pauli qui compense la gravité. Et dans cet état-là, on sait qu'il y a dans un centimètre cube 10 puissance 15 grammes. Ça, c'était effarant à s'imaginer, mais ça fait quand même un milliard de tonnes par centimètre cube. Donc c'est vraiment un état très très concentré de la matière. La taille pour une masse ou deux solaires fait 10 km environ. Et ces astres assez fascinants tournent très très vite parce qu'il y a une conservation de moment angulaire, donc la rotation c'est accéléré, et un champ magnétique de même qui est énorme, 10 puissance 12 Gauss. Alors, il y a quand même un certain nombre de pulsars normaux. Alors, quand on dit normaux, ce sont les premiers qui sont isolés après l'explosion de la supernovae. Par exemple, le pulsar du crabe, les Chinois l'avaient observé en l'an 1000, donc c'est quelque chose qui est assez récent, un pulsar jeune, qui a une période de 0,03 secondes. En général, la seconde ou bien 0,1 seconde sont des pulsars jeunes qui ensuite, une fois qu'ils rayonnent par leur pulse, etc., ils perdent de l'énergie, ils vont se ralentir. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait beaucoup de pulsars beaucoup plus rapides, milliards de secondes, donc ils tournent 1000 fois à la seconde autour d'eux. Et ceux-ci sont plutôt des vieux pulsars, des vieilles étoiles à neutrons qui ont été réactivés par la binaire, c'est-à-dire que ce sont des pulsars binaires qui avalent un peu de matière de l'enveloppe de leur compagnon. Et cette chute de masse va leur apporter énergie et moment cinétique, et donc ça va les réaccélérer. Donc ils vont avoir une période beaucoup plus courte, 2 milliards de secondes. Alors, ce sont ces binaires-là qui sont très très intéressantes pour faire justement le calcul des périodes et des perturbations. Alors, la durée de vie normalement d'un quasar normal, de ceux qui sont connus, hein, très nombreux, elle est environ de 100 millions d'années, c'est-à-dire qu'ils perdent l'énergie et puis ils n'auront plus assez d'énergie pour émettre. Mais dans une binaire, le champ magnétique est beaucoup plus faible. Ils ont perdu de leur champ magnétique dans le pulse ici. Et à ce moment-là, ils perdent beaucoup moins d'énergie par rayonnement et leur durée de vie peut être plusieurs milliards d'années. Alors voici un petit peu le schéma où se trouvent tous ces pulsars. Dans un diagramme, où vous avez la période ici. Donc une seconde, ce sont les pulsars normaux. En général, une seconde ou 0,1 seconde, ils se retrouvent tous ici. Et ce que vous avez en ordonnée, c'est la dérivée de la période, à quelle vitesse ils s'accélèrent ou se ralentissent, c'est selon qu'ils sont binaires ou pas. Donc les pulsars binaires, ils perdent beaucoup d'énergie, donc ils sont un dérivé de la période très grande ici, avec une seconde. Et puis lorsqu'il y a des binaires qui reçoivent beaucoup de masse et qui sont réactivés, ils se retrouvent à des périodes de millisecondes ici. Et puis, par contre, ils perdent très peu d'énergie, donc ils sont dans un dp sur dt très bas. Alors, en rouge, vous avez le nombre de binaires qui sont observés, et puis d'isolés en bleu, et puis les doubles. Alors, il y a des binaires avec des naines blanches, comme vous le disiez, donc c'est assez nombreux. Ceux qui sont des doubles étoiles à neutrons, ce sont les vertes, donc une dizaine, comme on disait, assez rares. Donc ce sont ceux qui sont dans cette catégorie de millisecondes qui sont les plus utiles pour faire cette astrophysique de très très grande précision. Alors un programme a été démarré avec ce télescope aux États-Unis qui s'appelle Green Bank Telescope, qui fait 100 mètres et qui essaie de découvrir de plus en plus pulsar millisecondes. Donc voyez un petit peu les vitesses radiales que vous arrivez à avoir avec cette précision en regardant le temps d'arrivée de ces pulses hein, qui sont modulées par les orbites. Vous arrivez à mesurer des vitesses à la millimètre par seconde. C'est bien mieux encore que ce que vous faites pour les exoplanètes. Les exoplanètes, c'est déjà un exploit. Vous arrivez à mesurer, par exemple, la vitesse de l'étoile qui recule lorsqu'une planète tourne autour de l'étoile avec 1 mètre par seconde, ce qui est déjà faramineux, mais ici, vous avez encore mieux. Donc, c'est vraiment les mesures en astrophysique qui sont les plus précises. Évidemment, ça nécessite énormément de données, puisque vous voyez que ce pulse, il faut qu'on mette les données sur disque à mieux que la microseconde. Pour avoir cette précision, vous avez tout de suite des pétabytes de données à analyser, d'autant plus que le milieu interstellaire est plein d'électrons qui font un indice de dispersion. Donc, en fonction de la fréquence, vous avez un temps d'arrivée de ces pulses qui sont un petit peu différents. Donc, il faut corriger tout cela. Donc, c'est énormément un défi pour calculer tous ces pulsars, mais le résultat est vraiment énorme. Donc, par exemple, on a pu déterminer ce qu'on appelle le délai de Shapiro, qui est un phénomène relativiste prédit donc par la relativité générale, c'est-à-dire que lorsque vous avez le pulsar qui est derrière le deuxième objet contact de la binaire, il y a un retard, un rougissement gravitationnel et un retard d'arrivée du signal émis. Donc, on va voir quelques... Alors, le fait que ces pulsars vont permettre de détecter des ondes gravitationnelles de très très grande longueur d'onde. Je vous avais parlé lorsqu'on a des trous noirs supermassifs, c'est-à-dire lorsqu'on a des fusions de galaxies et dans chaque galaxie il y a un trou noir qui va fusionner. À ce moment-là, la période va être très très longue puisque pour les grosses masses elle est très petite, donc les longueurs d'onde vont être très grandes, des années-lumière, et on va pouvoir observer la déformation de l'espace sur ces grandes longueurs d'onde si on a au moins une dizaine de pulsars que l'on va pouvoir mesurer. Donc, par exemple, si l'espace est courbé, déformé dans cette direction, ce pulse-là va arriver avec un certain retard, et ainsi de suite. Si on peut calculer, c'est en quelque sorte un réseau de pulsars qui va jalonner la déformation de l'espace. Donc, ces pulsars vont permettre, sont les seuls actuellement qui vont permettre de détecter ces déformations à très très grande longueur d'onde. Parce que ces pulsars, ils sont quand même à plusieurs années-lumière de nous, donc on a plusieurs longueurs d'onde de cet espace. Alors justement, le test de la relativité générale a été fait dans quelques exemples qui sont très très précis. Je vous parlais tout à l'heure du test de Shapiro. Le voici en fait, le résidu en microseconde. C'est le temps de retard qu'a le pulsar dans la binaire lorsqu'il passe derrière, si vous voulez. Et on prédit en rouge cette courbe qui est exactement ce que les points de mesure en noir vous donnent. Donc, vous voyez un petit peu le degré de précision. On a pu tester à 0,05% la relativité générale dans le délai gravitationnel avec ce pulsar binaire. Alors, il y en a un autre qui est encore plus précieux, c'est un pulsar triple. Donc, c'est très très rare, il est unique. Il y a deux systèmes là. Il y a au centre un pulsar qu'on a décrit avec un zoom ici, un pulsar qui est en binaire avec une naine blanche. Donc vous voyez, le pulsar c'est 1,4 masse solaire, la naine blanche 0,2. La naine blanche c'est plutôt l'état final d'une masse comme le Soleil par exemple, quelque chose qui ne va pas exploser en supernovae mais qui va perdre son enveloppe et devenir un objet assez compact où ce sont les électrons qui sont dans une mer de Pauli, en quelque sorte, où c'est la force de Pauli des électrons qui compense la gravité. Donc vous avez seulement 0,20. Donc vous avez ce pulsar qui tourne avec cette période de 1,6 jours. Et puis ce système est au centre d'un autre binaire, si vous voulez, avec la deuxième naine blanche qui a une masse de 0,4 et qui, une période de 320 jours. Donc ces deux-là vont nous permettre de bien mesurer toutes les masses. Vous voyez un petit peu la précision ici. Vous avez en fonction du jour le délai d'arrivée de ce pulse. Ici, vous avez la période de 120 jours, hein, à peu près, hein, je ne me rappelle plus, mais c'est 320 jours, pardon. 320 jours. Et si vous faites un zoom ici, vous avez la période qui est toute petite avec, si je regarde en arrière, j'ai oublié, 1,6 jours. Donc, vous voyez que vous avez la combinaison entre ces 320 jours de période de la grande orbite avec une très, très grande précision. Alors, en couleur, vous avez télescopes qui ont observé. Hein, c'est exactement la même chose, donc c'est tout à fait précis. Et vous avez la période de 1,6 jours du deuxième pulsar au centre. Donc vous pouvez, avec toutes ces données-là, contraindre même les gravités modifiées, si vous voulez, puisque vous avez certains paramètres, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe, mais certains paramètres qu'on appelle alpha et bêta, qui en relativité générale valent zéro. Et lorsque il y a besoin d'aller au-delà de la relativité d'Einstein, de construire une gravité modifiée, ces paramètres sont variables. Et donc, ça nous permet, ce genre de mesure, de contraindre les valeurs alpha et bêta, c'est-à-dire contraindre les modèles possibles d'autres gravités. Donc ici, vous avez bêta qui vaut 0 ici, alpha 0. Et donc, tous ces pulsars vont contraindre dans la zone grisée, qui est encore possible. Donc, ces pulsars en bleu étaient le dernier qui contraignait dans une valeur assez petite de alpha. Vous voyez que le pulsar triple en rouge est celui qui contraint le plus, parce qu'on a beaucoup plus de paramètres et de contraintes. Donc, beaucoup de théories ont été éliminées par la mesure des pulsars. Donc, ça, c'est très, très utile. Alors, pourquoi on observe ces ondes gravitationnelles ? Donc, bien sûr, il y a le test de la relativité générale dont j'ai parlé. Il y a aussi qu'une fois qu'on aura pu mesurer, alors évidemment, on peut mesurer à haute fréquence la fusion de petits trous noirs de masse stellaire, et puis ensuite à basse fréquence des trous noirs supermassifs, on aura une fenêtre sur l'univers différente des ondes électromagnétiques. C'est ce qu'on avait développé la semaine dernière, c'est-à-dire lorsqu'on a des trous noirs qui fusionnent à grand redshift dans l'espace, on n'a aucun moyen de le savoir. Dans ces trous noirs, s'ils ne sont pas actifs, si les noyaux ne sont pas actifs, ils ne rayonnent pas, et on aura les seules ondes gravitationnelles qui seront les seuls signaux que pourront nous envoyer ces trous noirs en fusion. Donc lorsqu'on pourra le détecter à distance cosmologique, on pourra un peu jalonner toutes les fusions de trous noirs avec ces ondes gravitationnelles. Je pense que ça, c'est vraiment un des intérêts essentiels, en plus de aussi ce qu'on appelle EMRI, c'est-à-dire des fusions de trous noirs de masse, de rapport de masse extrême. C'est un trou noir supermassif qui est au centre de la galaxie et puis un petit trou noir de masse stellaire qui tombe dessus. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent et qui va aussi nous renseigner. Alors, pour le faire, en fait, il est très difficile de détecter ces ondes gravitationnelles. On va le développer maintenant. Et ce qui est important de savoir, c'est quel est le signal qu'on attend. Alors, ce signal, on en a déjà un petit peu parlé la semaine dernière, il a un petit peu cette forme-là. En fait, c'est une forme très, très simple, avec des trous noirs qui ne tournent pas, etc. Il y aura des modulations s'il y avait un spin au trou noir. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez deux trous noirs qui sont en train de fusionner. Au départ, ils tournent avec une vitesse assez lente, et peu à peu, lorsqu'ils se rapprochent par rayonnement d'ondes gravitationnelles, ils vont tourner de plus en plus vite. Donc vous voyez que la fréquence ici est de plus en plus grande. Si vous avez un son, si vous mettez l'équivalent du son, on appelle ceci un chirp, c'est-à-dire que ça fait ouf, c'est comme un petit oiseau. Et c'est ce nom anglais chirp qu'on peut traduire par gazouillis, si vous voulez, qui est le signal type d'une fusion et de ce qu'on attend par la fusion de deux trous noirs ou deux étoiles à neutrons. Donc c'est un petit peu ça qu'on aimerait calculer avec précision pour retrouver, parmi beaucoup de bruit, le signal qu'on attend. Donc on va essayer de trouver ce signal. Alors la fréquence de ce signal, si oméga est la fréquence de la binaire, c'est deux fois la binaire, puisque à mi-parcours, elle représente la même distribution, si vous voulez, de masse. Hein. Donc on a toujours deux fois oméga si oméga est la vitesse angulaire de la binaire. Alors pour ces calculs, il faut calculer le moment quadrupolaire, qui est la source de l'onde gravitationnelle. Et pour ceci, il faut développer l'ordre 2, disons le moment d'ordre 2 de la masse. Alors évidemment, si vous avez vous sommez somme de rho sur le volume d3x, vous avez à l'ordre 0 la masse totale de l'objet. Et puis, lorsque vous prenez r au carré, c'est-à-dire x, ça fait les distances dans toutes les dimensions, au carré, vous aurez quelque chose comme le moment d'inertie. Hein, on calcule en mécanique classique MR2, vous aurez quelque chose qui est le moment quadrupolaire de l'ensemble. Et on va faire des hypothèses pour simplifier que, par exemple, ce moment quadrupolaire va varier de façon sinusoïdale avec la fréquence oméga. On a vu que pour une binaire, c'était le cas. Pour un pulsar, même si vous avez quelque chose d'isolé qui est assez déformé, qui n'est pas complètement symétrique, et vous avez un pulsar qui tourne, ce sera la fréquence oméga du pulsar, hein, bien sûr. Et puis, on va faire l'hypothèse que la source est petite par rapport à la longueur d'onde. Ça, c'est toujours vrai. On a vu que les longueurs d'onde, c'était entre une année-lumière et des milliers de kilomètres. Donc ça, c'est certainement vérifié. Et puis, des vitesses non relativistes. Alors ça va être une approximation, surtout à la fin. Alors, on peut montrer que, un petit peu comme les ondes électromagnétiques étaient l'accélération du dipôle, ici, on a la dérivée seconde de ce quadrupôle, ici, qui arrive. Donc, vous voyez que si vous faites l'approximation sinusoïdale, vous allez avoir oméga 2, la fréquence, qui va arriver ici. Donc, plus ça tourne vite et plus le H, c'est la déformation, l'amplitude de la déformation, delta L sur L, si vous voulez. Alors, cet H, ici, il est dans un système d'unités où G égale C égale 1. Mais si on rétablit ces unités, le delta L sur L donc, sera égal à G sur C4 de cet HJK, si vous voulez. Donc, ce qu'on voit surtout, c'est que, 1, cette déformation delta L sur L, elle varie comme 1 sur R avec la distance, et puis aussi comme la fréquence au carré. Alors, si on regarde l'amplitude de ces ondes, pour simplifier, on a mis la dérivée qui serait égale à MV2, V étant la vitesse de la partie non symétrique, hein, le quadrupôle, composant de la vitesse. Donc, vous pouvez mettre une petite approximation des ordres de grandeur à cette quantité-là. Vous pouvez le calculer. Donc, si on prend deux étoiles à neutrons de masse 1,4 masse solaire, une période qui devient égale à la seconde, à la dernière près de leur instant de fusion, et à une distance de 10 mégaparsecs de vous, à ce moment-là, ça vous donne 10⁻². Vous vous apercevez tout de suite que c'est extrêmement petit. Extrêmement petit. Alors, on pourrait dire, bon, est-ce qu'on peut essayer de détecter ces ondes en laboratoire ? On a pris un exemple ici, deux masses de 1 tonne, qu'on va faire tourner très rapidement, à 10 Hz, c'est-à-dire 10 tours par seconde, et distante de 10 mètres. Et on va essayer de se placer à une longueur d'onde. Alors, longueur d'onde, pour 10 Hz, ça fait quand même 15 millions de mètres, ou 15 000 km, si vous voulez. Et bien à ce moment-là, ça vous donne 10⁻43. Donc là, c'est complètement impossible. Donc vous voyez bien qu'il n'y a que les astres, enfin, qu'il n'y a que l'astronomie qui va pouvoir vous permettre de détecter des ondes gravitationnelles. C'est extrêmement petit, même pour des objets très très compacts qui tournent extrêmement vite. OK. Alors en plus, on va essayer d'avoir cette forme du train d'onde, la forme prédite de la fusion, par exemple, à travers ces trois phases de la fusion d'une binaire, qu'on avait déjà décrite un petit peu la dernière fois avec ce petit dessin de Kip Thorne ici. Dans la première phase, qui est la plus longue, les deux objets compacts, par exemple deux trous noirs qui ont un certain spin ici, vont progressivement spiraler l'un autour de l'autre en perdant un petit peu d'énergie par ces ondes gravitationnelles. C'est la phase vraiment qui est très très longue. Et puis, progressivement, on va avoir une fusion complète. Là, on ne peut absolument rien calculer. Ici, on peut quand même essayer de faire des approximations et d'appliquer le développement post-newtonien. On va voir que ça marche très bien. Et puis ici, on ne peut absolument pas résoudre l'équation et on fera appel aux ordinateurs, donc ce qu'on appelle relativité numérique. On peut calculer des ordinateurs jusqu'au bout, d'ailleurs, mais ici, on peut déjà le faire avec des approximations. Et puis, lorsque les deux trous noirs ou objets compacts ont fusionné, on a une petite relaxation qu'on appelle ring down, si vous voulez, où on va devenir un gros trou noir à peu près symétrique, mais en attendant, on a quand même quelque chose qui est à peu près quadrupolaire et qui va émettre certaines ondes tout de même, et qu'on peut peut-être calculer en faisant des perturbations autour du trou noir. Donc, j'ai rappelé un petit peu l'ordre de grandeur. Deux trous noirs de 5 masses solaires va vous donner une fréquence de 2000 Hz à la fin, avec cette fréquence qui est le double de la rotation. Alors, ces équations d'approximation post-newtonienne, je ne vais pas du tout vous montrer toutes les équations, parce que ce sont des équations qui font 10 pages facilement, hein, des équations analytiques assez complexes. Mais le but étant de savoir à quelle vitesse la phase phi va tourner, de savoir quelle va être la fréquence des ondes émises en fonction de la géométrie du problème et du rapport de masse. Le rapport de masse, on va réduire le problème comme d'habitude en mécanique, c'est-à-dire un centre de gravité et une masse réduite. Et la masse de la particule réduite, c'est 1 sur mu égale 1 sur m1 plus m sur m2, c'est-à-dire le mu, lorsqu'on a une masse qui est très petite, mu est égal à pratiquement à la masse la plus petite. Et puis, justement, dans ces cas où on a un rapport de masse très grand, par exemple 1 million ou 1 milliard de masse solaire au centre de la galaxie et puis un petit trou noir de masse stellaire, on sera dans ce cas-là de rapport de masse très extrême, donc certaines approximations possibles. Mais il va falloir quand même calculer pour le trou noir sa self-force, en fait, la déformation qu'il produit lui-même sur l'espace. Donc si on regarde bien, on a des développements comme ceci, donc en 1 sur C2, ici, qui est par convention appelé l'ordre 1, l'ordre 1.5 pour C3, etc., l'ordre 6. Et en général, quand on arrive vers l'ordre 7, les gens ne sont pas allés tellement plus loin, l'ordre 7, on arrive à peu près à quelque chose qui représente bien la réalité. Alors, voici un exemple de deux trous noirs sans rotation, donc de Schwarzschild, de masse égale, pour simplifier, et voyez qu'en rouge, au pointillé, vous avez l'approximation post-newtonienne, et en bleu, la relativité numérique sur ordinateur. Vous allez me dire laquelle est la meilleure, on ne sait pas, peut-être que dans les calculs, ils sont quand même aussi approchés sur ordinateur. On va voir qu'on en a fait avec plusieurs codes et ça donne la même chose. Vous voyez que c'est à peu près bon jusqu'à la dernière orbite stable ici, et puis vous avez le rapprochement, c'est-à-dire l'augmentation de la fréquence et de l'amplitude aussi. Alors voici un petit peu le calcul de la self-force par Blanchet et collaborateurs en fonction donc de la vitesse ici, de la distance. Alors ici, on voit en rouge l'approximation newtonienne, carrément, et puis tous les ordres, ici jusqu'à 7, où le calcul exact est atteint par cette approximation. Donc, on voit que ça marche relativement bien. Ici, vous avez une comparaison de tous les ordres avec la relativité numérique. Donc, curieusement, on arrive quand même, bien que ces équations de relativité générale soient très très complexes, avec l'approximation post-newtonienne, on arrive à des résultats qui sont intéressants. Alors, on pourrait se dire aussi, qu'est-ce qui est exact ? Est-ce que c'est l'approximation ou la relativité numérique qui n'est pas bonne ? En fait, plusieurs codes de relativité numérique, 1, 2, 3, 4, je ne rentre pas dans les détails, mais on les a comparés et ils donnent tous à peu près la même chose, ce qui donne un peu plus confiance dans les résultats que sortent les ordinateurs. Donc on pense que ceci est vraiment la référence. Alors pour l'événement de fusion avec un rapport extrême de masse, vous voyez un petit peu le schéma que l'on peut faire, un trou noir énorme qui est au centre de la galaxie, et puis un petit trou noir de masse stellaire, peut-être 5 masses solaires, et on voit que ceci a été calculé, et on a une forme d'onde qui est particulière. Ici, voici une petite animation qui montre ce que fait le petit trou noir autour du gros, qui est aussi au centre de masse. On voit que parfois, il tourne assez rapidement avec un tout petit angle d'approche, et puis parfois avec une orbite assez excentrique. Vous voyez qu'on a la fréquence ici qui est très très grande lorsqu'il s'approche du trou noir, bien entendu. Vous voyez que dans certaines circonstances, on peut avoir des signatures de fusion ou d'orbite qui sont vraiment très différentes et qui permettent de reconnaître l'événement auquel on a affaire. Alors ces événements qu'on appelle Embry sont supposés être très très fréquents. En général, lorsqu'on a un trou noir au centre des galaxies, on a aussi un amas d'étoiles dont les étoiles sont assez très proches et font des collisions. Et ces collisions entre étoiles vont amener des petits objets compacts vers le trou noir central et on aura une grande probabilité d'avoir un petit trou noir qui est avalé par le gros. Donc ce système-là va nous fournir le plus des événements qui vont donner des ondes gravitationnelles dans l'avenir, on pense. Et puis, il se pourrait aussi qu'on puisse détecter des événements uniques, comme l'explosion d'une supernovae. Cette explosion va se faire de façon non symétrique, certainement, Par exemple, le crabe ici, vous voyez qu'il n'a rien de symétrique, ce n'est pas une sphère qui se développe ni quoi que ce soit. On pense qu'il y a une réflexion sur les couches internes de l'étoile, des ondes fluides et des quadrupôles certainement. Donc on pense qu'il y aura des ondes qui auront une certaine caractéristique, voici un exemple, et que l'interféromètre LIGO que je vais présenter et développer, et surtout l'état avancé, va nous permettre de détecter ce genre de supernovae. Vous allez me dire que ces explosions sont assez rares. Oui, c'est vrai, dans une galaxie, à peu près une tous les 30 ans, mais on va avoir un volume dans lequel on va pouvoir détecter ces événements assez grand, de manière à avoir des milliers ou des millions de galaxies, donc on pourra avoir des éléments de ce type. Et puis, on peut aussi pouvoir penser à détecter un fond stochastique d'ondes gravitationnelles, parce que toutes ces ondes vont se cumuler, et comme on n'a pas une directivité très importante, on ne pourra pas savoir exactement avec précision la direction dans laquelle arrivent les ondes gravitationnelles, toutes ces ondes vont se cumuler, on va être un petit peu confus, y avoir une confusion d'ondes. Ici, on a calculé ici l'intensité en énergie de toutes les ondes gravitationnelles émises par les sources possibles. Donc, vous avez ici en bleu les supernovae, comme le crabe, qui vont exploser. Vous avez les étoiles au début de l'univers qui sont très très massives, qui font une supernovae, si vous voulez, en rouge. Vous avez les binaires qui, quand même, dans le bilan énergétique, est quand même bien plus grand. Les binaires de naines blanches, de étoiles à neutrons, et puis peut-être de très très massifs trous noirs qui seraient au début de l'univers. Alors si c'est très massif, la fréquence est très basse. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est l'intensité ici que l'on prédit. Alors on prédit ça en oméga, c'est une densité d'énergie. Vous avez l'habitude de voir cet oméga pour la matière. On normalise la densité de matière ou la densité d'énergie en fonction de la densité critique de l'univers. Et on sait que la matière plus la matière noire plus l'énergie noire nous fait oméga égale 1. Donc comparé à cette énergie-là, vous avez l'énergie des ondes gravitationnelles et ceci est à peu près 10-15 ou 10-11, etc. Donc ça vous donne un petit peu une idée de l'ordre de grandeur de cette énergie. Alors ici, en fonction de la fréquence de ces ondes, vous voyez un petit peu les fréquences dans lesquelles on pourra détecter ces signaux. Alors, on va parler maintenant de tous les détecteurs possibles d'ondes gravitationnelles qui sont au sol. Alors, au sol, on a des tailles petites, des longueurs d'ondes petites qui font du kilomètre. Donc, on aura des fréquences assez hautes. On sera dans cette gamme de ce diagramme. Si on va dans l'espace, on pourra avoir des longueurs d'ondes qui feront des millions de kilomètres, donc un peu plus. Et puis, ceux dont on vient de parler, les pulsars. Alors, avec l'instrument SKA, qui sera un réseau d'antennes qui fera un kilomètre carré, on pourra détecter un grand nombre de pulsars et avoir des réseaux de pulsars qui vont pouvoir nous détecter ces ondes-là, des ondes gravitationnelles de très basse énergie qui correspondent à la fusion de trous noirs supermassifs. Et on sait aussi que, on l'a vu la semaine dernière, qu'on s'attend à ce que la fusion de trous noirs supermassifs soit le plus fréquente, un redshift très grand dans l'univers, c'est-à-dire au début de l'univers, c'est égal 10. Donc on a un intérêt à pouvoir être sensible à des événements assez lointains. Alors maintenant, on va passer à les instruments qui vont nous permettre de détecter. Je ferai une histoire. On a commencé à peu près il y a 50 ans cette recherche d'ondes gravitationnelles. Et au début, le pionnier dans ces ondes-là, c'était Joe Weber, un Américain, que l'on voit sur cette image, qui avait construit une expérience avec une barre résonante. Alors, vous voyez, c'est une barre, un cylindre en métal, qui résonne à une certaine fréquence, et cette barre résonante pourrait détecter des oscillations de l'espace à cette fréquence-là. Alors évidemment, il ne faut pas que ces barres soient sensibles aux tremblements sismiques, par exemple, donc ces barres sont un peu suspendues, protégées par ce rayonnement. Et il pensait en avoir détecté dans les années 75. En fait, personne n'a pu reproduire cela, donc c'est sans doute une fausse alerte, parce qu'il avait disposé deux barres à quelques centaines de kilomètres et essayé de mesurer une corrélation entre les deux. Disons, si vous éloignez les deux barres et qu'il y a une onde qui passe, vous vous affranchissez de tous les phénomènes locaux, par exemple, je ne sais pas, un poids lourd, un métro qui passe, qui vous fera faire des vibrations. Donc la corrélation entre plusieurs bas va conforter la présence de... C'est ce qu'il avait dit, il avait une corrélation, en fait, c'était une fausse alerte. Mais dans les années 90, un grand nombre de ce détecteur-là, en bas, ici vous en voyez un, on va le décrire, et puis des interféromètres qui sont plus sensibles que les barres maintenant ont été développés. J'en présente deux, LIGO et VIRGO, on va les présenter maintenant. Alors déjà pour les barres, ça continue en fait. Pourquoi ? Parce qu'on a appris à les faire un peu plus précises. Ici, vous voyez le Nautilus qui est en Italie, ouvert. En fait, il est normalement fermé parce qu'il est sous cryogénie. On le refroidit pour que le bruit thermique ne vienne pas perturber les vibrations. Mais on s'est aperçu que finalement, ces barres, c'était Joe Weber qui avait initié ces barres, mais une boule, une sphère est encore bien mieux, puisque la barre est sensible surtout dans une direction, et avec une sphère, vous avez beaucoup plus d'angles possibles d'arrivée de ces ondes. Donc des sphères sont en train d'être construites, par exemple le Grail, c'est une sphère, et au Brésil, on a une sphère, avec de plus en plus sophistiqué. Donc il est possible que ce genre de détecteur puisse aussi contribuer à la corrélation. Par exemple, si les interféromètres détectent quelque chose, on peut peut-être regarder si d'autres détecteurs ne puissent pas le détecter. Enfin, actuellement, ce qui est le plus sensible, ce sont les interféromètres. Donc le principe est assez simple, hein. Ce qu'on voit ici, c'est un interféromètre de Michelson qui avait déjà servi, comme vous le savez, pour prouver que la vitesse de la lumière est la même dans tous les repères. Donc on a une branche d'interféromètre, deux branches orthogonales. Alors aujourd'hui, on a des lasers très puissants qui sont très cohérents pendant un très grand nombre de longueurs d'onde. Donc ce qu'avait fait Michelson, c'était de mettre une branche de cet interféromètre parallèle au mouvement de la Terre et une perpendiculaire. Il avait vérifié que finalement, la vitesse de la lumière était la même dans les deux directions, donc indépendante du repère, qu'on ne pouvait pas additionner les vitesses lorsqu'on avait déjà la vitesse de la lumière. Donc ici, c'est un petit peu le même principe. Donc on envoie un laser et on va le faire réfléchir sur des miroirs. Et si une onde arrive et comprime cette direction et élonge celle-ci, vous allez avoir un défaut de frange. C'est-à-dire que si au départ, vous avez une frange noire, parce que les deux sont exactement égales, les deux longueurs sont exactement égales, lorsque passe une onde qui va étirer un côté et comprimer un autre, vous allez détecter ici une frange qui va défiler. Donc ça, c'est vraiment très très précis. Voici un peu le principe. Hein. L'onde qui arrive va nous changer avec un petit delta L sur L, mais alors vraiment de 10-22, hein, c'est vraiment très exagéré. Mais voici le principe. Alors en pratique, ce qu'il faudrait faire, c'est amplifier un peu ce signal. Et ce qui est fait, c'est les miroirs d'abord, comme vous voyez sur ce petit schéma, sont suspendus pour essayer de les protéger des ondes sismiques. Et puis, il y a une cavité ici entre les deux miroirs de manière à allonger la branche. Dans le système de LIGO, par exemple, la branche fait 4 km, mais la longueur d'onde que vous voulez mesurer fait peut-être 4000 km. Donc, on aimerait aller plus loin, donc ce qui se fait en créant une cavité. Donc ici, le laser va être réfléchi 1000 fois, et donc la lumière aura parcouru 4000 km. Donc c'est une façon d'allonger votre expérience. Et ici aussi, une cavité semblable. Donc on s'arrange, alors ici on voit notre onde gravitationnelle qui arrive, hein, extension d'un côté et compression de l'autre, et on va essayer de se mettre d'abord à la frange noire et de voir défiler ces franges si jamais il y a un événement qui arrive. Alors, vous voyez, je reprends, on a un delta L qui est de 10-18 mètres, ce qui est énorme. Hein, la taille du proton, c'est 10-15. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus petit que la taille du proton. Évidemment, c'est statistique, c'est le mouvement du miroir et qui est possible de détecter. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs de ces interféromètres. Il y en a deux américains qui s'appellent LIGO, distant justement d'un certain nombre de milliers de kilomètres. C'est très important ça maintenant parce qu'il fonctionne en réseau. On voit bien qu'il est très important d'avoir un événement et de le confirmer pour savoir si l'événement a été vu par plusieurs interféromètres. Le Virgo, qui est l'interféromètre franco-italien qui a été rejoint par d'autres pays européens, qui est près de Pise, et qui fonctionne aussi en réseau avec LIGO, et puis un autre en Allemagne, ici, et puis au Japon, un peu plus petit. Alors, quelles sont les ondes gravitationnelles que vont détecter tous ces instruments? Alors, c'est ce qu'on avait dit, hein, c'est qu'au sol, on a des longueurs d'onde assez petites, même 4000 km, c'est petit. Donc, on va pouvoir détecter que les hautes fréquences, donc les petites masses, donc binaires de masse stellaire ou petits trous noirs de 5 masses stellaires. Si on veut des masses beaucoup plus grosses et des supermassifs, des trous noirs supermassifs, il va falloir aller dans l'espace. On va décrire bientôt justement l'ISA, etc. Et puis ici, c'est le domaine des pulsars. Alors il y a une autre source d'ondes gravitationnelles, comme vous le savez, ce sont les ondes gravitationnelles primordiales dues à l'inflation. Alors là, c'est encore plus basse fréquence et ça ne sera jamais détectable par ce genre d'instrument. Donc on peut le détecter avec la polarisation en B du corps noir, mais ça, c'est un petit peu à part. Alors, le résultat jusqu'à ces dernières années, alors je dirais jusqu'à 2015, parce que vous savez qu'à partir de septembre 2015, il y a eu une grande augmentation de sensibilité des interféromètres, surtout LIGO en 2015 et puis bientôt Virgo en 2016, et qu'on s'attend à des détections, alors que jusqu'à présent, on ne s'attendait pas vraiment à des détections, vu que ce qui était prédit est un petit peu inférieur à la sensibilité. Donc, il y a quand même des limites supérieures qui ont été mises, par exemple, sur des objets isolés, le pulsar du crabe. Si le pulsar avait été très, très inhomogène, le quadrupôle aurait été plus grand et on aurait eu, rien qu'avec la fréquence de pulsation du crabe, qui est de 0,03 secondes, on aurait eu une certaine onde gravitationnelle qu'on aurait pu détecter. Donc, le résultat négatif a pu mettre une limite supérieure sur l'énergie que rayonne le crabe dans sa rotation, et c'est moins de 2% de son énergie en onde gravitationnelle. Donc, il est assez symétrique, en quelque sorte. On a aussi des limites sur le nombre de binaires dans un volume assez restreint. Donc, c'est justement là que ça devient intéressant, c'est que jusqu'à 2015, vous pouvez détecter les binaires que dans un petit volume, vu la densité des appareils LIGO et Virgo. Et depuis quelques mois, donc, la sensibilité a été multipliée par 10. Alors, comme vous le savez, que l'amplitude delta L sur L est en 1 sur R, si vous multipliez par 10, vous multipliez votre volume par 1000. D'où le volume ici. Donc, on va pouvoir détecter 1000 fois plus d'événements. Et on s'attend donc à peut-être 10 ou 100, si on est très optimiste, événements par an. Donc, il est possible, probable, que LIGO en ait détecté. Peut-être vous allez entendre dans les semaines ou les mois qui viennent des événements qui seront détectés après interprétation. Alors, voici les augmentations de sensibilité qui sont prévues. Vous voyez qu'en bleu, c'est justement 2015. Et puis, évidemment, des améliorations sont prévues jusqu'à un peu plus faible que 10⁻³. Donc, on va commencer à vraiment détecter un grand nombre d'événements et non seulement détecter pour la première fois une onde gravitationnelle en direct, mais aussi ouvrir la fenêtre de ces ondes et pouvoir détecter des fusions de trous noirs et faire de l'astrophysique avec. Alors, vous voyez que LIRGO va aussi, mais un an plus tard, en 2016, obtenir des sensibilités comparables, peut-être légèrement inférieures, mais quand même très, très comparables. Donc, ce qui est très important maintenant, c'est ce que je disais, c'est mettre en commun tous les résultats. On a ces deux instruments ici, Virgo, ici en Allemagne. Certains LIGO sont aussi en Inde. Et puis aussi toutes les barres qui peuvent aider. Il y en a qui sont au Brésil, il y en a 5 ou 6 qui sont à différents endroits du globe et qui peuvent peut-être assurer que certains événements sont réels puisqu'ils sont détectés au même moment. Et puis aussi, on peut améliorer la directivité de la détection, de savoir d'où vient l'onde gravitationnelle si on a plusieurs endroits sur Terre qui la détectent avec certaines amplitudes. Alors, ce qu'il va y avoir dans le futur, après LIGO et Virgo, une étape avant même de partir dans le spatial, est ce qu'on appelle ETI, c'est-à-dire l'Einstein Telescope. Ce sera plutôt une troisième génération. Ça a été discuté en Europe par la prospective européenne. Et comme vous le voyez, c'est un instrument souterrain pour s'affranchir des séismes, avec 3 bras en triangle, un petit peu comme ce qu'on va décrire sur l'ISA. Et ce que vous voyez ici, c'est d'abord la longueur du bras sera 10 km, donc on sera plus sensible, à des fréquences plus basses. Et chaque bras, alors ici c'est rouge, bleu et vert, il y aura une clôture de phase, c'est très, très intéressant. Et puis on voit qu'il y a une haute fréquence et une basse fréquence. En effet, les lasers qui ont un certain nombre de photons, si vous voyez, il y a un certain bruit de photons dans les lasers, et à haute fréquence et à basse fréquence, on n'a pas les mêmes contraintes. C'est-à-dire qu'il y a certaines impulsions sur les miroirs dues au laser, et plus on est à haute fréquence, plus on a besoin d'avoir un grand nombre de photons pour limiter ce bruit de nombre de photons, si vous voulez, le bruit intrinsèque au nombre de photons. Alors il se peut qu'on ait des contraintes différentes à basse et haute fréquence, donc ce serait un circuit qui serait doublé pour avoir un circuit à haute et un circuit à basse fréquence. Alors voici un petit peu le vue d'ensemble, hein, on ne sait pas exactement encore où ce sera situé, mais voyez un petit peu les stations internes, les pays européens qui participent. Et puis, donc, l'étape ensuite, c'est le projet LISA, donc d'onde gravitationnelle dans l'espace. Alors, au départ, c'était un projet NASA et ESA, c'est-à-dire américain et européen, qui était de placer 3 satellites dans l'espace avec une distance de 5 millions de kilomètres. Chaque satellite contient 2 masses test et qui réfléchissent. Alors, il y a aussi des télescopes qui recueillent le laser et qui réfléchissent, qui sont reliés aux 2 masses test, qui sont reliés aux 2 autres satellites, hein, de manière à faire un interféromètre de Michelson à nouveau. Donc les 2 masses test seraient en or, on va voir un petit. Et l'ensemble serait situé au point de Lagrange, c'est-à-dire un point de stabilité, d'équilibre entre Soleil et Terre. Donc il y aurait autour du Soleil une trajectoire qui serait semblable à la Terre avec un petit délai. Donc ici, vous voyez un petit peu les 3 satellites qui suivraient la Terre avec un certain angle. Donc, le problème, ça, c'était le projet ancien. En 2011, la moitié des financeurs s'est retirée. Donc, il y a un projet qui est un petit peu plus petit, qu'on va décrire. Alors déjà, avec ce projet LISA, vous voyez un petit peu la sensibilité qui était prévue en fonction de la fréquence. Donc, cette fois-ci, on arrive jusqu'à des fréquences très basses et on peut suivre. Alors, évidemment, on l'a vu dans la forme de l'onde, on commence dans une fusion de trous noirs à avoir une fréquence très basse. Et puis ensuite, on monte en fréquence. Donc ici, ce que vous voyez en carré, c'est un an avant la fusion. Tous les petits carrés sont ici. Ensuite, vous avez un triangle, un dixième d'année avant la fusion, et on passe ici sur les triangles. Et puis ensuite, à la fusion, on est ici. Donc on a bien une augmentée de fréquence, hein, la fréquence étant ici, on a une augmentée de fréquence dans l'événement de fusion. Et toute cette phase de in-spiral et puis de merger, elle est vraiment du côté de la détection. Donc tout ceci étant assez suffisamment sensible pour détecter tout l'événement de fusion de trous noirs supermassifs en fonction de la masse que vous voyez écrite ici. Alors là, c'est le projet un petit peu évolué qu'on écrit ici, qu'on appelle ILISA, EVOLISA, et qui est uniquement avec les Européens. Cette fois, on a 1 million de kilomètres de base. Enfin, c'est quand même pas mal. Hein. Et toujours le même principe de 3 satellites qui sont au point de Lagrange et qui tournent avec la Terre dans cette vision-là. Alors, ce qui a été lancé en décembre dernier, le 3 décembre 2015, c'était un Pathfinder, c'est-à-dire un satellite pour tester le concept, hein, qui ne va pas détecter d'ondes gravitationnelles, mais qui va tester le concept de. Est-ce qu'on sait contrôler les masses tests? Alors, les masses tests, qu'est-ce que c'est? C'est des masses qui doivent être sensibles à la déformation de l'espace. Et donc, on va les isoler de tout ce qui pourrait perturber leur mouvement, c'est-à-dire, par exemple, le vent solaire. Le Soleil envoie un plasma de particules chargées, des protons et électrons, ou bien alors de pression de radiation du Soleil, etc. Donc, le satellite, dont vous avez un exemple ici, hein, la taille, ça fait environ 2 mètres, ce satellite va protéger la masse qui va être un petit peu isolée, et par des interférences laser, on va pouvoir savoir si la masse se rapproche, si vous voulez, du satellite ou non, et avec un petit moteur, éloigner le satellite, de manière à ce que la masse soit vraiment flotte dans l'espace et ne soit pas perturbée par toutes les perturbations solaires, par exemple. Donc c'est ça le principe. Et cet instrument, donc vous voyez un peu les masses test sont ici, vous voyez un petit peu tous les interféromètres de laser qui essaient de contrôler la position de ces masses pour qu'elles flottent vraiment dans l'espace et pousser un peu le satellite pour qu'il le permette aux masses de flotter, être indépendantes et détecter vraiment ces déformations de l'espace. Donc c'est ça qui a été lancé et on essaie de voir si ça marche. Alors, lorsque ça marchera, voici ce qu'on va pouvoir détecter. Donc, on a déjà parlé de ces quatre sortes d'ondes qu'on va essayer de détecter. Donc, les explosions de supernovae, donc des événements courts et très intenses. Cette fois-ci, je ne l'ai pas dit, mais si le LIGO avancé pouvait aller jusqu'à 300 mégaparsecs, le ITI et le LISA va aller beaucoup plus loin. Donc on va pouvoir arriver peut-être à des distances cosmologiques, aller à avoir un certain nombre de supernovae qui ne sera pas négligeable, et donc il est possible qu'on va détecter ce genre de choses. Ou alors les binaires, comme on a dit, avec les trois phases qu'on a décrites. Ou alors les ondes continues de pulsars qui seraient assez déformées pour avoir une onde gravitationnelle. Ou alors les ondes stochastiques, la confusion de toutes les ondes. Je ne parle pas des ondes primordiales qu'on ne pourra pas détecter par ceci. Donc, par exemple, l'explosion de supernovae, ça a été calculé. Même Advanced LIGO pourrait peut-être, vous voyez la sensibilité ici, pourrait en détecter un certain nombre. Donc, alors, ceci dépend évidemment de la simulation que l'on fait de la supernovae, c'est-à-dire quels sont les modes et les perturbations qu'il y a dans la supernovae. Si la supernovae s'explose comme une sphère, il n'y aura pas d'onde gravitationnelle. Donc ici, tout est dans l'inhomogénéité de ces supernovae. Donc les calculs sont très importants. Alors on sait que certaines supernovae sont liées à ce qu'on appelle les sursauts gamma. Ces sursauts gamma, on en détecte un grand nombre, de durée courte ou de durée petite. On pense qu'une grande partie, peut-être 30% des sursauts gamma très courts, qui font une seconde, sont dus à des fusions d'étoiles à neutrons ou des trous noirs étoiles à neutrons. Or, ces sursauts gamma, il y en a un par jour qui est détecté. Donc, on voit bien que le nombre d'événements pourrait être assez grand. Alors, pour les sources binaires, on voit qu'on peut en avoir de masse égale, de masse très différente, ou de masse de fusion de trous noirs de supermassifs. Donc, tout ceci, bon, on en a parlé, hein, en fonction de la fréquence, etc. Et pour l'instant, jusqu'à septembre 2015, on avait mis certaines limite supérieure avec le taux d'événements par an. Donc, restez à l'écoute, mais je pense que dans les temps qui vont venir, on aura peut-être une bonne nouvelle là-dessus. Pour les sources continues, on a pu déjà mettre des limites sur la forme de ces étoiles à neutrons qui tournent dans les pulsars. Et on va peut-être apprendre beaucoup, lorsqu'on aura détecté des événements, beaucoup de choses sur la physique de l'étoile neutron interne, donc la physique de la matière très condensée et comment elle se comporte. Donc ça, c'est l'espoir. Et le fond stochastique, on a déjà montré ce schéma en fonction d'oméga, hein, le fond qui est dû à plusieurs sources, donc fusion de trous noirs, d'objets massifs ou bien d'ondes gravitationnelles primordiales, etc., etc. Donc je vais en terminer en comparant un petit peu ce qu'on attend du sol et de l'espace. On a vu les interféromètres au sol ont une très grande sensibilité, mais pour des sources avec des fréquences très hautes, donc des masses très petites. Vous voyez un petit peu les supernovas et tout ce qu'on va pouvoir détecter, donc la courbe de sensibilité est en bleu. Et puis, pour l'ISA, on voit que la coalescence de trous noirs supermassifs va être complètement détectable. Et puis, je termine avec ce troisième, dont j'ai parlé au début, les pulsars sont complètement uniques. Même dans l'espace, on ne va pas pouvoir atteindre ce domaine-là. Donc, des nanofréquences, où on a des longueurs d'onde qui sont de dizaines ou des trentaines d'années-lumière. Donc, tout ceci va être détecté avec SKA, qui est l'instrument en ondes centimétriques qui va nous permettre de détecter, avec le réseau de pulsars, ces trois domaines d'ondes gravitationnelles. OK, donc en conclusion, je pense qu'on a bien un petit peu décrit ce qu'était ce qu'avaient de particulier les ondes gravitationnelles, leur déformation de l'espace, leur polarisation, et surtout l'amplitude faramineusement petite de l'amplitude 10-22 de delta L sur L qui est attendue. Et c'est quand même assez fascinant qu'on puisse aujourd'hui le détecter ou penser le détecter. On va évidemment tester toutes les approximations post-newtoniennes pour calculer les formes d'ondes prédites et pouvoir le retirer du bruit. On sait qu'il y a à la fois l'analytique et puis la réalité numérique, et puis les sources que l'on va détecter, qui sont de plusieurs natures, explosions de supernovae, binaires, pulsars, etc. Et finalement, un grand avenir est devant nous. Je pense que l'ISA, on parle de 2034, donc vous voyez qu'il faut peut-être quand même être patient, mais les jeunes dans cette salle pourront peut-être le détecter. Donc merci beaucoup. Donc la deuxième partie, je vous invite à écouter Tania Regimbaud qui va nous parler de la détection des ondes gravitationnelles. Elle travaille à Nice et est spécialiste de ces ondes.